Alors, Galates chapitre 4, verset 21. Et je pense que j'allais jusqu'au verset 31. Peut-être je vais m'arrêter avant, on va voir. Bon, je lis. Dites-moi, ceux sous une loi voulant être la loi, n'écoutez-vous pas? Car il était graphé en ce qu'Abraham eut deux fils, un du sortant de la jeune servante et un du sortant de la libre. Mais celui, certes, du sortant de la jeune servante, selon la chair, il a été engendré. Celui, cependant, du sortant de la libre, par la promesse. Lesquels des quelconques, il étant allégorisé, car celles-ci sont deux dispositions. Une, certes, à partir d'un mont de la région montagneuse qui est appelée Sinaï, engendrant envers un esclavage, laquelle une quelconque est Agar, car le Agar est de la région montagneuse qui est appelée Sinaï, un mont dans l'Arabie, coaligne au même rang cependant à la Jérusalem de maintenant. Elle est cependant esclave avec les enfants à elle. La cependant d'en haut, Jérusalem libre, elle est. Laquelle une quelconque est mère de tous ceux de nous, car il était graffé, soit réjouie, stérile, celle n'enfantant pas, fracasse et beugle, celle ne ressentant pas la douleur de l'accouchement, en ce que nombreux les enfants de la déserté, ayant davantage d'enfants que de celles ayant l'homme. Nous, cependant, frères, selon Isaac, enfants de la promesse, nous sommes. Mais comme certes alors celui selon la chair ayant été engendré poursuivait celui selon le souffle, ainsi aussi maintenant. Mais quoi dit l'agrafe? Éjecte la jeune servante et son fils, car qu'il n'hérite pas ponctuellement le fils de la jeune servante avec le fils de la libre. Par conséquent, frères, nous ne sommes pas enfants de la jeune servante, mais de la libre. Ok. Alors, donc en gros, verset 21, dites-moi ceux sous une loi voulant être. Ok, effectivement, on a pu voir avant qu'apparemment il rejetait l'évangile et du coup, bah, il était forcément sous une loi. Mais quoi, la loi, n'écoutez-vous pas? Bah oui, si tu te mets sous une loi, comment après tu veux pas écouter la loi, the loi? Ok, ensuite, car elle a été graphée en ce que, donc là il dit, on va dans la partie de la loi que Paul veut leur faire écouter, si je puis dire, qu'ils n'écouteraient pas, apparemment, a priori, car elle était graphée en ce qu'Abraham eut deux fils, un du sortant de la jeune servante et un du sortant de la libre. Mais celui, certes, du sortant de la jeune servante, selon la chair, elle était engendrée, celui, cependant, du sortant de la libre par la promesse. On peut remarquer quoi là? On peut remarquer qu'il n'y a pas une fois le mot femme. Mais il emploie les termes jeune servante et libre. Or, le mot pour jeune servante en grec, c'est un seul mot. C'est pas genre deux mots, un pour jeune, un pour servante. Non, c'est un seul mot. Comme pour libre, en grec, c'est un seul mot. Donc, en gros, là, Paul, il nous ramène deux mots. Un mot pour jeune servante, un mot pour libre. Et il n'emploie pas le mot pour femme. Mais il emploie libre et servante, grosso modo. Okay? Servitude et liberté, grosso modo. Et il va dire que, en fait, ces femmes-là, qui ont enfanté des fils à Abraham, elles peuvent être allégorisées du fait que justement on puisse les qualifier de libres et de servantes en fait. En ce que justement la liberté et la servitude, ce sont des thèmes facilement et naturellement allégoriques en fait. Ce sont des dis c'est Il y a une prédisposition à l'allégorie avec ces termes-là. Il dit, car celles-ci sont deux dispositions. Voilà. La disposition de la liberté, voilà, la personne est libre, etc. Et la disposition de la servitude, qui est quasiment l'opposé, où la personne doit servir, voilà. Donc, ces deux mots-là sont deux dispositions, correspondent à deux dispositions. Ce sont deux dispositions-là. Et elles correspondent, ces dispositions-là, à deux femmes. Donc après, il va nous dire, bon, il va nous donner ces dispositions-là, il dit deux dispositions, deux points. Il va nous parler de la première. Une, et là, il va nous mettre une petite parenthèse. Il va nous dire que cette disposition-là, elle engendre envers un esclavage. Donc là, on sent qu'on parle de quelle disposition, non pas de la libre, mais de celle de la servitude. Ensuite, il va nous donner une autre petite parenthèse, une autre petite info. Et puis après, il va nous dire à propos de cette disposition qu'elle coaligne, elle coaligne au même rang, elle correspond à la Jérusalem de maintenant. Voilà. En gros, là, il établit un lien, une correspondance entre la servitude et la Jérusalem de maintenant. Voilà. Et puis, il va encore ajouter un autre petit détail entre parenthèses par la suite. Revenir sur les détails ensuite. Donc, L'allégorie qui est finalement donnée ici, c'est que la servitude est allégorisée, si ça se dit, à la Jérusalem de maintenant. Puisqu'il dit clairement que ça correspond, ça co-aligne au même rang à la Jérusalem de maintenant. Donc c'est là l'allégorie, et c'est là que ça se trouve, c'est entre la servitude, qui est quasiment la même chose qu'Agar, d'accord, avec la Jérusalem de maintenant. Et ayant donné la première allégorie avec cette disposition-là, il va surenchérir, il va continuer en donnant la deuxième allégorie pour la deuxième disposition, en disant que, alors il le dit un peu différemment que pour la première, il va dire directement que voilà, la Jérusalem d'en haut, c'est la libre. C'est la libre, c'est-à-dire c'est la disposition libre. Elle est libre. La Jérusalem d'en haut est libre. Elle correspond de fait, naturellement, intrinsèquement, logiquement, à la disposition de la liberté. Et d'où est-ce qu'on sort comme ça la Jérusalem libre ? Bien, d'une certaine manière, du fait qu'on vient juste avant de parler de la Jérusalem de maintenant. Donc, en termes de cheminement de pensée, ça fait un petit sens quand même. Que voilà, on parle de Jérusalem de maintenant, ben juste après on va parler de Jérusalem d'en haut. Voilà. Car ne sont-elles pas proches finalement ? Et puis il va continuer avec la Jérusalem d'en haut en disant que c'est notre mère. Et donc il prend les trois en fait. Il prend l'allégorie qui est la Jérusalem d'en haut. Il prend la disposition qui est la liberté. Et il prend Sarah. D'accord ? Et il les met tous sur un même pied d'égalité. Sur un verset. D'un coup, comme ça. De manière très directe et rapide. Sans quasiment aucun vraiment enchaînement entre chacun de ces éléments-là. Voilà, il met. Là, cependant, d'en haut, Jérusalem, libre elle est, laquelle une quelconque est mère de tous ceux de nous. Voilà. Donc je répète, là on voit les trois choses, on voit l'allégorie, la disposition, la femme. Et après il va justifier le fait que cette Jérusalem libre soit notre mère par le fait de citer un passage de l'écriture qui dit voilà, soit réjouis, stérile, ça n'enfantante pas, etc. Mais en vérité, on peut comprendre sans trop de difficulté, n'est-ce pas, que cette citation-là est plutôt un rappel qu'une démonstration de A à Z. Donc ce quart de cas, elle a été graphée, n'a pas pour vocation de... Enfin, logiquement, hein, parce que comment cela pourrait-elle... comment que ça pourrait être suffisant, n'est-ce pas ? Donc ce quart n'a, à ma connaissance, pas vocation à démontrer de A à Z que la Jérusalem d'en haut est notre mère de tous ceux de nous. Mais je dirais que c'est plutôt pour habiller son propos, pour l'illustrer, pour lui donner quand même un goût scripturaire. Voilà. Donc c'est un peu un cas, par exemple, avec comment dire, qui prendrait un peu le sens de « en effet ». Voilà. D'ailleurs, il me semble que Alain Dumont traduit donc le mot grec sous-jacent pour ce car, donc « gar », par « en effet » plutôt que « car ». Voilà. Maintenant, à présent, revenons aux détails que j'ai passés. Détails qui sont donc entre parenthèses, qui se trouvent lors de la description, si je puis dire, de la première disposition qui est la disposition de la servitude. Quand il dit, voilà, par exemple, qu'elle est engendrante envers un esclavage. Donc, revenons à cela. Donc, première parenthèse, juste après avoir dit une, et juste avant avoir dit engendrante envers un esclavage, donc juste avant d'avoir présenté en tant que. Enfin, dit que c'était la disposition de la servitude. Donc, il nous met certes à partir d'un mont de la région montagneuse qui est appelée Sinaï. C'est-à-dire que cette disposition vient, si je puis dire, à partir d'un mont de la région montagneuse qui est appelée Sinaï. Donc là, il ne dit pas du Sinaï. Il ne dit pas que cette disposition vient du Sinaï, mais de la région, enfin d'un mont de cette région-là. Région qui s'appelle comme le mont Sinaï, région du Sinaï, région Sinaï. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous dit que cette disposition vient de cet endroit-là ? Pourquoi il nous dit qu'elle vient, enfin elle vient, quelque sorte, hein, il n'utilise pas le verbe venir, mais c'est, je trouve, sous-entendu. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que c'est à partir d'un mont de la région du Sinaï? Alors déjà, certains pourraient dire « Ah, bah, c'est parce qu'il ferait référence à la loi de Moïse qui a été donnée dans le Sinaï. » Alors la loi de Moïse a été donnée au mont Sinaï. Donc on sait, c'est connu, c'est précis. Donc il aurait pu dire, s'il avait voulu faire référence au mont Sinaï, à la loi de Moïse, il aurait pu dire « à partir du mont Sinaï ». Mais ce n'est pas ce qu'il met, ce n'est pas ce qu'on a dans le texte. Ce n'est pas ce que nous avons dans le texte. C'est ce que nous avons peut-être dans les traductions, mais les traductions, c'est le problème des traducteurs. Là, on prend le texte original, hein, n'est-ce pas ? Enfin, en tout cas, étant le plus proche, vraisemblablement, de l'original. Et il nous met quoi ? Il nous met que c'est à partir d'un mont, on ne sait pas lequel, un mont, de cette région du Sinaï. Voilà. Maintenant, comment il peut dire que cette disposition de la servitude, elle est à partir d'un mont de la région du Sinaï ? Parce qu'en soi, le concept de servitude ne provient pas d'un mont de la région du Sinaï, n'est-ce pas ? Alors, si ce n'est pas la disposition qui vient de là, qu'est-ce qui vient de là ? Bah, peut-être la femme qui est associée à cette disposition-là, n'est-ce pas ? Car cette femme Agar, on l'appelle par le nom de cette disposition, jeune servante, n'est-ce pas ? Donc, cette femme et cette disposition, c'est comme une même chose, c'est très lié l'un à l'autre. Comme la Jérusalem d'en haut et le fait que ce soit notre mère, c'est-à-dire une femme, et le fait qu'elle soit libre, toutes ces trois choses-là, la disposition, la ville et la mère et la femme, sont très liées l'une à l'autre. À tel point qu'il parle de l'une comme si c'était l'autre, etc. au verset 26. Et je considère que c'est la même chose au verset 24. Parce que pour le verset 26, c'est la disposition de la liberté. Mais pour le verset 24 et 25, c'est la disposition de la servitude. Donc, de la même manière qu'il va parler de la disposition de la liberté en mêlant cette disposition avec la ville de Jérusalem d'en haut et Sarah qui est notre mère, de la même manière, la disposition de la servitude, eh bien, je considère qu'il en parle, enfin, je comprends qu'il en parle en y mêlant la femme qui est associée, à savoir Agar. Et par la suite, au verset 25, la Jérusalem de maintenant. Donc tout ça pour dire que ce ne serait pas quelque chose de marginal que d'agir ainsi, que de mêler la disposition de la servitude avec Agar, de les mettre sur un même pied d'égalité, si je puis dire. Et donc, si la disposition ne vient pas dans l'absolu de la région du Sinaï, peut-être serait-ce le cas de la femme associée à cette disposition, c'est-à-dire Agar. Alors on va voir dans le suite du texte qu'il en est. Maintenant, dans la deuxième parenthèse, je lis « Laquelle une quelconque est Agar, car le Agar est de la région montagneuse qui est appelée Sinaï, un mont dans l'Arabie. » Dans cette deuxième parenthèse-là, il va dire de manière plus claire, directe et explicite à qui est rattaché cette disposition qui engendre envers un esclave, c'est-à-dire cette disposition de jeune servante, cette disposition de servitude. À qui elle correspond ? Bah, elle correspond à la jeune servante, c'est-à-dire qui ? Agar. Et là, il va nous remettre car, il va dire car, le Agar, et etc. Et là encore, je trouve que ce car du verset 25 est comme le car du verset 27. Ce n'est pas un car qui a pour vocation, pour objectif de démontrer de A à Z pourquoi Agar serait cette disposition de la servitude, mais c'est un cas qui viserait plutôt à illustrer le pourquoi Agar serait cette disposition-là. Voilà. Donc là encore, on pourrait plutôt voir dans ce mot car, ou en tout cas dans le mot grec gal, le sens de en effet, comme mais allant du monde, n'est-ce pas ? Plutôt que le sens français du mot contemporain « car ». Donc dit autrement, il aurait, je pense, peut-être été préférable de traduire ce mot car par en effet. Je vais regarder, je pense, par la suite dans le dictionnaire si c'est pas mieux finalement de traduire par en effet. Enfin bref. Parce qu'en vérité, même peut-être qu'en français, car pourrait avoir le sens de en effet. Et du coup, là, l'info que va nous donner Paul, l'espèce de petite info croustillante, si on peut dire, le petit détail qu'il va ajouter, c'est quoi? C'est qu'il va nous dire que, je dirais même en fait que ce car viserait plutôt à, en fait, non pas à seulement, si je puis dire, à illustrer ce qu'il a pu dire par rapport à cette disposition, mais plutôt à justifier ce qu'il a dit au début, à savoir que cette disposition est à partir d'un mont de la région du Sinaï. Et d'où ça sort ça? Eh bien, ça sort du fait que dans la région du Sinaï, il y a un mont qui porte le nom, ou le nom d'un synonyme de cette disposition dans le contexte, qui est quoi? Agar. Voilà. Et du coup, d'une certaine manière, on peut dire que cette disposition, c'est-à-dire Agar, se trouve sur un mont de cette région du Sinaï. Sur quel mont? Sur le mont Agar dont nous parle le verset 25. N'est-ce pas? Voilà. Qui est un mont en Arabie. Et du coup, oui, la disposition de la servitude est à partir de ce mont-là. Et il ne dit jamais que ce mont-là, c'est le mont Sinaï. Non, c'est pas le mont Sinaï, c'est le mont Agar. Et donc, c'est intéressant, je trouve, le fait que ils nous disent que cette disposition de la servitude soit à partir d'un mont du Sinaï, non pas parce que Agar est une arabe, à mon souvenir, dans la Genèse. Or, la région du Sinaï est en Arabie, mais c'est vrai que, en vérité, même si Agar est arabe, c'est pas suffisant pour dire que la disposition de la servitude serait à partir et à partir d'un mont de la région du Sinaï, parce que le texte de la Genèse ne nous dit pas si Agar provient de la région du Sinaï ou d'une autre partie de l'Arabie. Mais le fait de dire que dans la région du Sinaï, il y a un mont qui a le nom de cette femme dont on parle, et de surcroît de cette disposition, eh bien, Paul s'en sert pour, du coup, dire que cette disposition est à partir de ce mont-là, qui est le mont Agar. Donc pourquoi est-ce qu'il nous dit ça finalement? Eh bien, je pense que je commencerai par dire que en disant que cette disposition de la servitude est à partir d'un mont d'Arabie, d'un mont de la région du Sinaï, il va l'opposer à la Jérusalem qui, elle, n'est pas à partir de quelque chose qui est sur la terre, mais qui est à partir de quelque chose qui est en haut, puisqu'on dit la Jérusalem d'en haut. Donc, dans une disposition, on part de la terre, et dans l'autre, on part de ce qu'il y a en haut. Donc, ça sert à ça, je dirais, de dire que la disposition de la servitude est à partir d'un mont de la région du Sinaï. Ça nous permet de pouvoir opposer cette disposition plus simplement, peut-être, à l'autre disposition de la liberté qui, elle, vient d'en haut. Il y en a une disposition qui vient de la terre, qui vient d'un mont, le mont Agar, et l'autre disposition de la liberté qui, elle, vient du ciel, qui vient d'en haut. Alors peut-être qu'il aurait pu dire juste, certes à partir d'Arabie par exemple, que la disposition de la servitude serait à partir d'Arabie. Peut-être qu'il aurait juste pu dire ça. Mais en vérité, s'il avait simplement dit ça, bon déjà, il n'aurait pas ajouté ce détail que je trouve intéressant, que dans la région du Sinaï, il y a un mont qui s'appelle Agar, qui est quand même fort, hein, faut le faire entre guillemets si on peut dire. Et puis, c'est moins... Comment dire, c'est moins frappant, je trouve, de dire que la disposition est à partir d'une montagne précise, qui a un nom, on sait exactement dans quelle région c'est, et même dans quelle zone c'est en Arabie, etc. C'est plus précis de dire ça comme ça, plutôt que de dire qu'elle vient d'Arabie. Arabie, c'est plus flou, on sait pas, on n'a pas d'endroit précis, de localisation précise, de repères, etc. Donc, plus c'est précis sur Terre, plus le contraste va être grand quand on va comparer ça à la Jérusalem qui vient du ciel, finalement, n'est-ce pas? Je pense, je trouve, je crois. Donc, ces infos concernant le mont Agar, le fait que cette disposition de la servitude soit à partir d'un mont de la région du Sinaï, je dirais que ça, c'est principalement des détails rhétoriques, des détails pour donner un peu de puissance à son raisonnement. Voilà. Car en plus, on peut voir, par exemple, par la suite, que c'est pas repris après, quoi. On parle de Jérusalem, on fait pas le lien avec le mont Agar, ou pareil après, avec la Jérusalem d'en haut, etc. Donc, enfin, pas explicitement, si je peux dire. Ensuite, l'autre parenthèse qu'on a, l'autre détail qu'on a, si je peux dire, c'est le « elle est cependant esclave avec les enfants à elle ». Alors, le « elle », de qui s'agit-il? Alors, comme j'ai pu le dire, au verset 26, Paul a comme uni finalement la ville, donc Jérusalem, la femme, Sarah, et la disposition, la liberté, comme si c'était une seule chose, n'est-ce pas? Et en fait, dans ce verset 25, ce « elle-là » de « elle est cependant esclave avec les enfants à elle », à qui donc ça pourrait faire référence? Donc on a trois possibilités par rapport au contexte. On a soit donc la disposition, qui est ici la servitude, Agar, bon dans le contexte on n'a pas vraiment parlé, mais on sait par ce qui a été dit auparavant, par le contexte finalement, plus ou moins éloigné, en vérité c'est qu'à partir du verset 21, donc c'est pas si éloigné que ça. Donc on a Agar, on a la servitude, la disposition, et on a la Jérusalem de maintenant, qu'on a au début du verset 25. Donc ce « elle » peut faire référence à l'une de ces trois choses. Mais en vérité, si on unit ces trois choses-là, comme l'a fait indirectement ou directement le verset 26, eh bien ce « elle » parlerait de ce tout, en fait, d'accord? Alors, en soi, la servitude, oui, on pourrait se dire que abstraitement, théoriquement, ça pourrait avoir des enfants, les enfants de la servitude, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas. Jérusalem des enfants, on peut voir ça dans les évangiles. Quand Jésus est en train de porter sa croix, me semble-t-il, et qu'il y a les femmes de Jérusalem qui pleurent, Jésus dit « Filles de Jérusalem, ne vous lamentez pas sur ceci, etc. etc. » Ou encore quand il dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins auprès d'elle » ou un truc de ce genre. Donc qu'une ville, notamment en plus ici Jérusalem, puisse avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui est vraiment étranger à la pensée christique, à la pensée biblique. Voilà, donc qu'une femme maintenant, Agar, ait des enfants, ça c'est, y a pas de problème, sauf qu'il y a un petit problème entre guillemets quand même, c'est que le texte biblique ne parle pas d'Agar qui aurait plusieurs enfants, mais un seul enfant. Donc quand on dit les enfants à elle, bah c'est un peu, disons que c'est pas évident de rattacher ça à Agar, voilà. Donc, en vérité, je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est de rattacher ce « elle » à la Jérusalem de maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Jérusalem, selon les évangiles, pouvait avoir des enfants. Des enfants, donc on a en pluriel, c'est plusieurs enfants. Alors que pour Agar, bon, on s'avancerait. Pour la disposition de la servitude, ce serait bien d'avoir des témoins scripturaires sur quoi s'appuyer, j'en ai pas. Et puis, en plus, la Jérusalem de maintenant, c'est vraiment les mots qui sont juste avant cette parenthèse-là, qui nous dit « elle est cependant esclave avec les enfants à elle ». Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche avec ce texte-là. Et par conséquent, c'est un plus, si je puis dire, pour choisir cette Jérusalem par rapport à Agar ou la disposition de la servitude. Donc honnêtement, moi je dirais que ce « elle » fait référence à la Jérusalem de maintenant. Maintenant, comme au verset 26, en vérité, dans l'absolu, je dirais que c'est un tout en fait. Hein. C'est ce tout-là qu'on retrouve un peu au verset 26, enfin cette pensée, cette manière de faire. Mais là, en l'occurrence, si on veut être plus précis, je dirais que c'est la Jérusalem de maintenant. Voilà. Et donc ce « elle » est cependant esclave avec les enfants « elle », bah, Paul a l'air de nous donner ça comme si on ne le savait pas, en fait. Or, si on ne le savait pas avant, Ça veut dire que ce n'est pas pour cette raison-là qu'il a dit que la servitude correspondait à la Jérusalem de maintenant. Mais alors pourquoi, sur quelle base a pu-t-il dire que la Jérusalem de maintenant correspond à la disposition de la servitude? Ce qu'on a pu évoquer juste avant par rapport à cette disposition de la servitude, c'est la région du Sinaï. Sauf que Jérusalem, ce n'est pas dans la région du Sinaï. Et Jérusalem existait avant même que la loi de Moïse était donnée sur le mont Sinaï. Pour ceux qui voudraient dire que Jérusalem et le mont Sinaï seraient liés, ou voilà, quelque chose de ce genre. Oui, c'est indirectement plus ou moins lié, si on veut, mais ce serait nous qui ferait vraiment cette liaison-là, parce que dans le texte biblique, là, dans ce passage de Galates, il n'y a pas d'écriture claire, si je puis dire, explicite, qui dirait que la raison de pourquoi la disposition de la servitude correspond à la Jérusalem de maintenant serait que, en fait, la Jérusalem de maintenant, ça serait par rapport à la loi de Moïse, et que la loi de Moïse, ce serait la servitude. Enfin bref, ça, c'est tout un cheminement de pensée qui n'est pas présent intrinsèquement dans le texte. Voilà. Donc ça reste par conséquent à démontrer, mais c'est indémontrable juste en utilisant ce texte-là. Voilà. Or là, moi, pour l'instant, je suis sur ce texte. Après, ça, bien sûr, on peut utiliser d'autres textes, comme j'ai pris, par exemple, avec les filles de Jérusalem, le fait que Jérusalem peut avoir des enfants dans les évangiles, enfin bref. Mais en vérité, je pense que là, Paul nous dit juste nous donne juste une assertion, une affirmation, comme ça, bam, sans la démontrer. En mode, c'est comme ça, et voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il ne justifie pas, et c'est le cas à ma connaissance, il ne justifie pas pourquoi la disposition de la servitude correspond à la Jérusalem de maintenant. Peut-être que, par exemple, c'était évident à l'époque, peut-être qu'à l'époque, au moment où il écrivait ça, peut-être que Jérusalem était tenue par des juifs de Sanhédrin, qui ne croyaient pas en Jésus, et que du coup, Jérusalem était peut-être leur Jérusalem de maintenant, de leur époque, était peut-être sous l'autorité de personnes antichrist, finalement. Et donc, en cela, sur de la servitude, du fait que finalement, ils rejetteraient l'évangile, et du coup, seraient sur un évangile par les œuvres, par exemple. Voilà. Peut-être que, en fait, cette affirmation qu'il nous donne s'appuie sur des détails extérieurs au texte biblique. Et du coup, ce qui est entre parenthèses, quand on dit « elle est cependant esclave avec les enfants à elle », c'est pour contrebalancer l'image glorieuse qu'on pourrait se faire peut-être en nous-mêmes de de Jérusalem. En mode « oh, Jérusalem, oh, wow, gloire à Dieu, etc. etc. » Juste après, il nous dit « en fait, gloire à Dieu, mais en fait, c'est à l'esclave, en fait, Jérusalem, de maintenant. À l'esclave avec ses enfants, voilà. » Ou bien ça peut agir en tant que rappel, voilà. Ou les deux, tout simplement. Autre piste hypothétique, on va dire probable, peut-être, autre piste proposée, ce serait que, en fait, dans le Tanakh, quand on regarde Jérusalem, c'est la capitale du royaume du sud, du royaume de Juda. C'est-à-dire des Juifs, en fait. Et donc, on pourrait se dire que, symboliquement, la Jérusalem serait comme vraiment le cœur du territoire juif. Et on pourrait se dire du coup qu'à l'époque, Jérusalem était peut-être remplie de juifs qui ne croyaient pas forcément en Jésus, qui rejetaient cette revitalisation du côté d'Éphraïm. Et du coup, ça ferait de cette Jérusalem un espèce de symbole du rejet, si je puis dire, de Christ, finalement. Dans le sens capitale des Juifs, sous-entendu capitale des Juifs qui rejettent Christ. Car à plusieurs endroits des Écritures, de l'Écriture du Nouveau Testament, on peut voir que les 12 tribus sont encore d'actualité, en fait, à l'époque où ils écrivent, à l'époque néo-testamentaire. Et donc, le royaume du Nord et le royaume du Sud a toujours cette, comment dire, cette pertinence, en fait, je trouve, cette pertinence. Cette pertinence d'existence, si je puis dire. Et finalement, peut-être est-ce la raison de pourquoi Jésus dit, à propos de Jérusalem, « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, n'est-ce pas ?» Peut-être que la raison de pourquoi Jérusalem était dans un tel état, c'était justement parce que Jérusalem avait été comme contrôlée, administrée par ces pharisiens que Jésus reprend en fait en leur disant malheur à vous pharisiens car vous faites ceci, cela, car vous ne permettez pas à ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux et vous n'entrerez pas vous-même, etc., etc. Ces pharisiens qui sont juifs, n'est-ce pas? Donc je trouve cette proposition d'interprétation vraiment intéressante. D'autant plus que dans le Nouveau Testament, j'ai pas trouvé vraiment autre chose en fait que tout ce que j'ai pu donner jusqu'à maintenant pour interpréter cette expression de Jérusalem de maintenant. Voilà. Et honnêtement, je pense que ça va être cette compréhension, cette interprétation de Jérusalem de maintenant que je vais choisir. Donc à savoir, genre en mode capitale des Juifs qui rejettent Jésus, si je puis dire, des pharisiens un peu. Bien qu'en vérité, dans Actes, on puisse voir que Jérusalem avait été quand même bien touchée par le christianisme, hein, n'est-ce pas? On dit même les anciens de Jérusalem, etc. Donc, bon, c'est pas forcément évident, je trouve, comme expression, mais comme interprétation, surtout. Mais voilà. La parole du Seigneur, quand même, est forte quand il dit, voilà, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu... Non, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui t'en sont envoyés. Donc, c'est fort, quand même. C'est très fort, quand même. Ou encore, quand il dit, un prophète ne meurt pas hors de Jérusalem. C'est fort aussi, ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Du coup, on pourrait en arriver à la question de, ok, mais pourquoi, finalement, est-ce que il ferait correspondre la disposition de la servitude avec la capitale du royaume de Juda, finalement. Mais en fait, on pourrait dire tout simplement, ah bah, c'est juste que bah, ce sont des personnes qui rejettent Jésus et par conséquent l'évangile, et du coup, ils sont sur un faux évangile, salut par les œuvres, etc. Donc forcément, ils sont en servitude. On pourrait voir les choses comme ça. Et du coup, on pourrait dire, mais si on fait correspondre la disposition de la servitude avec la capitale de Juda, c'est-à-dire Jérusalem, par ce procédé-là que je viens de donner. Alors pourquoi est-ce que finalement il donnerait juste après le détail de aller cependant esclave avec les enfants à elle? Ben, je dirais que finalement c'est simplement en tant que rappel et précaution pour les personnes qui liraient vite et qui auraient du mal enfin, qui voudrait faire dire au texte n'importe quoi. Voilà. Et c'est pas parce que la Jérusalem de maintenant, pour reprendre l'expression, aurait été et la capitale des Juifs, n'est-ce pas, de Juda, et qu'elle tue les prophètes, etc. Bon, voilà, tout ça, qu'elle correspond à la servitude, n'est-ce pas, que Jésus n'y va pas, que Paul n'y va pas pour faire les fêtes de l'Éternel. Qu'il n'y a pas de sacrifice de fait, que Jésus n'est pas allé au temple tous les jours, etc., etc. Voilà. Donc il ne faut pas non plus essayer de trouver un prétexte pour dire ah oh, du coup il faudrait plus aller à Jérusalem, faudrait plus aller prier là-bas, ou faire des sacrifices là-bas, ou faire les fêtes là-bas, ou je sais pas quoi. Non, 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 pas du tout. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas prendre de prétexte qui n'existe pas, etc., etc. Faut rester fidèle au texte, faut rester fidèle à la pensée, il faut faire la volonté de Dieu et pas se dégonfler, pas tromper, pas faire n'importe quoi, pas induire en erreur, etc., etc. Faut être intègre, hein, voilà. Parce qu'on plaisante pas avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est un Dieu terrible, voilà. Néanmoins, dans cette parenthèse, il y a quand même le cependant qui, je trouve, donne l'impression que malgré le fait que Jérusalem enfin, voilà, tue les prophètes, etc., il semblerait que quand même elle ait une image quand même plus ou moins glorieuse. Et je pense, enfin, assez glorieuse. Je pense que c'est la raison de pourquoi on a ce cependant. Voilà, c'est comme je l'avais dit auparavant pour contrebalancer, je pense, cette image un peu glorieuse. qu'on a tous, je pense, inconsciemment, malgré le fait que, à ce dans la servitude. Par rapport au fait que la Jérusalem de maintenant persécute les prophètes, tue les prophètes, ne laisse pas entrer, pour reprendre ce que dit le Seigneur aux pharisiens, ceux qui veulent entrer dans l'âme des cieux, tout ça, en fait, bah, on voit qu'il y a un lien qui est fait après au verset, enfin directement, hein, je pense, au verset 29, quand il est dit « Celui selon la chair ayant engendré, poursuivez celui selon le souffle, ainsi aussi maintenant. » Et voilà, donc on voit bien que bah, cette Jérusalem de maintenant qui persécute les prophètes, elle persécute qui ? Bah, elle persécute ceux qui sont selon le souffle, en fait, n'est-ce pas ? Et ceux-là qui ont refusé Jésus, bah, ce sont des vieils hommes, en fait. Ce sont, oui, ce sont des vieils hommes, et donc des personnes selon la chair. Donc ce verset 29, il va bien, je trouve, avec, avec cette expression de Jérusalem de maintenant, finalement. Donc je pense que pour comprendre cette expression Jérusalem de maintenant, faut se souvenir de ces choses qu'on a pu lire dans les évangiles, que Jésus a pu dire concernant Jérusalem. Et même quand on regarde en fait dans Actes, finalement, oui, il y avait des disciples dans Jérusalem, des chrétiens, mais au final, pourquoi Pierre il a été mis en prison ? Pourquoi est-ce qu'on leur interdit de parler du nom de Jésus, etc. C'est qu'il y avait bien une puissance antichrist, finalement, n'est-ce pas ? Et pour revenir sur cette parole qui dit que celui selon la chair ayant engendré poursuivait celui selon le souffle, si donc la Jérusalem de maintenant c'est Agar, comme c'est bien le cas, hein, apparemment, et qu'Agar enfante celui qui persécute celui qui est selon l'esprit, eh bien, logiquement, si la Jérusalem de maintenant enfante aussi, elle enfanterait des enfants qui persécuteraient aussi ceux qui sont selon l'esprit, n'est-ce pas ? Et c'est justement ce qu'on a à peu près dit juste avant. C'est le cas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que Jérusalem tue les prophètes, n'est-ce pas ? Et maintenant, ayant dit ces choses, on a le verset 30 qui nous dit « Mais qu'est-ce que dit la grâce ? Éjecte la jeune servante et son fils, car qui n'hérite pas ponctuellement le fils de la jeune servante avec le fils de libre ?» Et verset 31 « Puisque, frère, nous ne sommes pas enfants de la jeune servante ni de la libre. » Donc, sur la base de tout ça, il va nous dire « Éjecte la jeune servante et son fils. » C'est quoi la base de tout ça ? C'est l'explication de la signification, le sens allégorique, si je puis dire, de la jeune servante et de son fils. Qui est quoi, du coup ? Éjecte la jeune servante et son fils, éjecte la servitude. Et celui qui en est issu, et son fils. Son fils qui persécute le fils de la libre, nous, qui nous persécute. Donc ça veut dire finalement éjecte la servitude, c'est-à-dire le faux évangile, c'est-à-dire la disposition qui rejette finalement la liberté, qui rejette le vrai évangile, mais ne rejette pas seulement le message, le faux évangile, mais rejette aussi celui qui te poursuit avec finalement, qui est qui ? Son fils, le fils de la jeune servante. Donc ça fait, voilà, éjecte le faux évangile et celui qui a servi un tel évangile et qui te poursuit. Et donc tout ça, il le dit, justement, sachant qu'on est enfant de la femme libre, de la libre, et non pas de la jeune servante. Donc quand on a connaissance de tout ça, quand on a conscience de tout ça, ça fait sens, en fait, le éjecte, la jeune servante de sa vie. Enfin, ils ont fait tout ce que nous a dit Paul, n'est-ce pas ? Et du coup, finalement, Paul, là, ce qu'il nous donne, c'est, disons, une solution concrète, d'une certaine manière, à la situation des Galates. En prenant un texte de la Torah et en faisant une espèce de léger midrash halakha, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire tirer une loi d'un texte de la Torah finalement, une loi qui n'est pas forcément explicitement loi, tout simplement. Et du coup, pour en arriver à l'interprétation, à sa compréhension de cette loi, eh bien, il fait toute une espèce de petite démonstration par des allégories, etc. Au final, effectivement, on en arrive à la conclusion, genre, jette la servitude loin de toi, éjecte-la, éjecte celui qui te poursuit avec, grosso modo. Et voilà. Et donc, en gros, l'idée, c'est chapitre 4, au verset 9, il vient nous dire « Comment surtournez-vous de nouveau sur les infimes et pauvres éléments qu'elle voulait de nouveau dans être esclave, etc. » Et après, il dit, mais au chapitre, au verset 30, « Mais éjecte, finalement, cet esclavage. Éjecte tout ça, en fait. » Et après, au chapitre 5, verset 1, il met « À la liberté donc, l'on nous libéra, tenez debout et ne pas de nouveau au joug de l'esclavage, soyez tenus au-dedans. » Pourquoi pas de nouveau au joug de l'esclavage? Parce que justement, au chapitre 4, il dit que tu n'es plus esclave, sous-entendu, tu étais esclave avant. Et pareillement, au verset, donc ça c'était au verset 7, verset 3, il dit « Nous étions, sous les éléments du monde, nous étions, ayant été esclavagés, ayant été esclavagés. » Donc, on était esclaves avant, n'est-ce pas? Et là, c'est pourquoi il dit pas de nouveau au jour de l'esclavage, pas de nouveau, n'est-ce pas? Et là, au verset 1, il met du coup, du chapitre 5, la liberté donc, loin nous libéra, tenez debout et ne pas de nouveau au jour de l'esclavage, soyez tenus au-dedans. Et nous, on sait que Christ nous a donné par son évangile effectivement la liberté. Quelle est cette liberté-là? C'est de pouvoir, finalement, d'une certaine manière, vivre notre vie comme on veut, en sachant finalement que peu importe ce que l'on fera, parce qu'on aura cru en Jésus, parce qu'on aura accepté le sacrifice de Jésus pour nos péchés, eh bien, on ira quand même au paradis, on aura quand même la vie éternelle. Donc, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, quoi, par rapport à ça. Et donc, oui, c'est une liberté que Christ nous offre, voilà. Tu es libre de faire ce que tu veux, ça ne va pas avoir d'impact sur ton salut une fois que tu as cru en Jésus, en fait. Et le truc, c'est que justement, là, dans le contexte, les Galates, on voit bien qu'il s'agissait d'être esclave, un faux évangile, d'accord ? Un faux évangile, et je dirais même à une fausse loi, comme j'ai pu le dire, chapitre 4. Par exemple, verset 10, il dit « J'en ai vous épié, et moi, et maman, et né. » On sent qu'il y a des rituels, on sent qu'il y a des traditions, on sent qu'il y a des lois, en fait, finalement, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, le fait de croire à un faux évangile, c'est en soi être sous une loi d'œuvre pour avoir le salut. Et ça, même s'il n'y a pas de loi autre, annexe, explicite. Donc je dirais que, de manière sûre, si je puis dire, quand il parle de liberté, il parle par rapport à l'évangile. À la liberté, donc, l'on nous libéra, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire d'œuvre pour avoir le salut. Contrairement, du coup, à ce que disent ceux qui veulent enfermer les Galates, ceux qui veulent pervertir l'évangile de Christ, comme dit chapitre 1, n'est-ce pas? Et du coup, Paul leur dit, soyez fermes dans cette vérité que je vous dis, que, grosso modo, le salut, c'est par la foi seule et pas par les œuvres. Et ne vous mettez pas de nouveau dans un jeu d'esclavage. Voilà. Ne soyez pas de nouveau dans une prison mentale à vous dire, ah, il faut que je gagne le salut, etc. Et je dirais que ce verset 1, en fait, du chapitre 5, c'est la conclusion de tout le chapitre 4, et même de ce qui est un peu avant. Voilà, parce que au chapitre 4, quand on regarde, voilà, il dit « Tu n'es plus esclave », parce que on a, par exemple, le verset Verset 5. Voilà, afin que les personnes sous une loi, il est acheté au dehors, c'est-à-dire au dehors à la gloire, afin que nous ayons reçu l'adoption filiale. Voilà, on était racheté de notre esclavage, c'est-à-dire d'une certaine manière, on était libéré. Voilà, donc voilà.